société Temesis qui va joyeusement tenir jusqu'à 11h05, questions comprises.
Bonjour. Eh bien, moi, je vais avoir le redoutable privilège d'abord de succéder à Tristan Nitto. Quand on n'a pas tout à fait le même gabarit que Tristan Nitto, pas très facile. Et ensuite, de vous parler de l'accessibilité. Alors, tant qu'à oser, je vais oser franchement. Et l'accessibilité, je vais en fait me permettre de l'introduire avec mon parcours personnel. Il y a quelques années, milieu des années 90, période affreuse, je n'étais pas du tout dans les métiers du web. J'étais enseignant. Avec le cumul d'une série de circonstances particulières. J'étais un utilisateur du web comme les autres, mais j'étais aussi enseignant dans une zone rurale où le web relevait encore de l'internet et le web relevait encore de la science-fiction la plus complète. Enseignant isolé, professionnellement, pédagogiquement, enseignant avec des élèves isolés, enseignant en charge d'élèves handicapés. Le hasard avait réuni dans ma classe de ma petite école rurale, plusieurs élèves dont les uns étaient handicapés visuels, deux autres handicapés moteurs. Et tout naturellement, l'idée d'exploiter les ressources du web pour sortir de tous ces isolements cumulés, m'est venu. Donc, installation de matériel, de récupération, d'une connexion, la mienne, qui va être la première du canton, bas débit, un tout petit forfait, il fallait être économe. Et nous voilà partis à consulter, chercher des ressources au web, et tant qu'à faire, à en produire nous-mêmes, à communiquer via le web, avec un blog, un des premiers blogs d'école. En fait, l'histoire aurait très bien pu s'arrêter là, quelques semaines plus tard. Je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Vous n'auriez pas enduré cette conférence, parce que c'était effroyablement décevant. C'était impossible. Entre notre connexion défaillante et en bas débit, entre les difficultés auxquelles se heurtaient mes élèves, parce que le contenu que on leur donnait à voir, leurs outils ne pouvaient pas le leur donner à entendre, par exemple, ou parce qu'ils ne pouvaient pas interagir avec telle ou telle interface de site, avec le matériel adapté qu'on avait pu leur trouver. Parce que moi, en tant qu'enseignant, je n'avais pas la disponibilité nécessaire pour consacrer énormément de temps à produire un site que je voulais respectueux de certains principes, puisque nous avions des besoins que je ne connaissais pas encore, je ne savais pas encore formuler en termes d'accessibilité comme aujourd'hui. Et puisque nous avions certains besoins sur le web, notre site devait être conforme à cette idée aussi. Pour parvenir à ce résultat, il m'aurait fallu un temps considérable. Je ne pouvais pas le faire, ça n'était pas mon métier. Donc, ça aurait très bien pu s'arrêter là. Et puis, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, on fait des rencontres importantes, des rencontres grâce au web, avec le mouvement des standards, le WASP, les écrits de Zeldman, un certain Tristan Nitto, m'a embarqué, et oui, encore lui, il est partout, qui m'a emmené dans une aventure, celle d'Open Web, collectif de promotion des standards, et qui m'a amené petit à petit à me dévoyer complètement, quitter ce métier d'enseignant, devenir quelqu'un qui travaille dans le web. Et une autre rencontre, au terme de ce parcours, qui m'a amené aux côtés d'Élise Lohim, J'étais Mésis, dans une perspective qui n'est plus seulement celle des standards, mais qui est celle de la qualité, d'une vision transversale du web global. Alors je suis parti, c'est pour ça que je me suis permis de vous raconter ma petite histoire, de quelque chose de très particulier, de contraintes particulières, et j'ai fini par arriver à la normalisation, et aujourd'hui à une démarche de qualité. Et finalement, c'est un peu ce parcours-là que cette introduction à l'accessibilité pour ces journées de Paris Web, puisque l'accessibilité est à l'honneur, c'est un peu ce parcours-là que je voudrais vous retracer, mais cette fois-ci, en ne m'arrêtant pas à ce que j'ai fait, mais en parlant de l'accessibilité en elle-même. Alors l'accessibilité. L'accessibilité, quand on l'aborde spontanément, qu'est-ce que c'est? Comme quelqu'un dans la salle l'a souligné tout à l'heure lors des questions posées à Tristan, comme moi-même je l'ai rencontré dans mon parcours, ce sont d'abord des gens en situation de handicap, des gens qui sont amenés éventuellement à utiliser tel ou tel matériel spécifique. C'est par eux que je voudrais commencer. Avec l'exemple emblématique de l'accessibilité. Il est tellement emblématique que, pour tout vous dire, j'avais presque envie de ne pas le prendre. Mais bon, il est parlant. Cet exemple, c'est celui de quelqu'un qui, dans une situation de handicap visuel, notamment, va utiliser un lecteur d'écran, une synthèse vocale, pour accéder au contenu que d'autres vont voir. Alors l'exemple que j'ai pris, c'est celui de Wikipédia. Le voilà. Nous allons aller sur Wikipédia, en espérant qu'il n'y ait pas de souci de passage d'une application à l'autre. Hop, je vais lancer Jaws. Alors, je précise une chose, mon utilisation personnelle de Jaws, parce que j'en suis aussi utilisateur, n'est pas celle d'un utilisateur aveugle. Mon handicap visuel, pour ma part, fait que je suis amené à économiser ma vue, mais à l'utiliser. Et donc, par exemple, vous allez me trouver beaucoup moins habile avec les raccourcis clavier de Jaws, que ne le serait un utilisateur aveugle, par exemple. Alors, lançons donc cette application, sans aller plus loin sur sa présentation, Jaws.
La version démonstration de Jaws fait ses documents en setting ou à bureau, entrée, gestion d'autorisation, entrée, alors, gestionnaire d'autorisation, boîte de dialogue. Il n'y a aucune disquette. Ces documents en setting ou à bureau Paris Web, vue de liste, JAS 5.0, 9 de 10, Altab, Diapaltab, accueil Wikipédia, Microsoft
Wikipédia.
Internet Explorer, accueil Wikipédia, Microsoft Internet Explorer, la page contient 9 titres et 314 liens, accueil Wikipédia, vos dons permettent à Wikipédia de continuer à exister, merci de visiter lien votre soutien, titre de niveau 1 accueil. Titre de niveau 3, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Allez à lien sur la même page navigation, lien sur la même page recherchée. Lien bienvenu. Sur. Lien Wikipédia, lien encyclopédie. Lien librement distribuable. Que chacun peut améliorer lien 364416. Article en français, plus de 5 millions d'en visiter lien 229 langues. Tableau avec deux colonnes et deux rangées lien graphique à clé tiré.
Alors, j'arrête la lecture ici que j'ai lancée. Si vous avez pu suivre, le rythme est assez lent. Très souvent, quand on utilise Jaws, il est beaucoup plus rapide que ça. Beaucoup, beaucoup plus rapide que ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que sur cette page de l'encyclopédie Wikipédia, eh bien, mon outil va me l'aborder linéairement, dans un ordre qui est celui du code du fichier qu'on lui a donné à lire et qui n'est pas forcément celui de la page. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des choses qui ont été lues qui n'apparaissent pas à l'écran. un article de Wikipédia à l'encyclopédie libre, je ne le vois nulle part, par exemple. Ensuite, mon outil va rencontrer parfois certaines difficultés à restituer des contenus. Nous sommes arrivés ici, dans cette zone de la page, figure des images, des éléments graphiques. On va reprendre la lecture, voir ce qu'il va nous en dire.
Lien recherche. Et lien consultation. Lien article de qualité. Lien catégorie. Lien index. Lien liste des listes. Lien nouvelle page. Visiter lien portail thématique. Fin du tableau. Tableau avec deux colonnes et deux rangées. Lien graphique accueil Wikipédia. Wikipédia.com. Lien Wikipédia accueille des nouveaux arrivants. Participation et arrivants.
Je crois que c'est assez clair. Vous avez compris tout ce qui a été lu ? Moi pas. Avec la meilleure volonté du monde, il y a des choses là-dedans, dans ce qu'on m'a lu, qui ne me disent rien, qui ne sont pas compréhensibles, parce que l'outil ne peut pas me rendre compréhensible, ici, certains éléments graphiques. À la place, il me lit leur adresse. Il pourrait les rendre compréhensibles. Si la page était totalement accessible de ce point de vue-là. On va en voir un exemple dans un autre cas. Ce qui est d'ailleurs remarquable tout de même, c'est que je peux percevoir au moins une très grande partie de ce contenu. Chaque lien m'est annoncé, je peux y naviguer. Alors en guise de navigation, puisque Wikipédia est une encyclopédie collaborative, j'y ai créé mon compte, il m'arrive de contribuer à cette encyclopédie. Je vais tenter d'y aller. Alors, je vais tricher, je vais passer par la souris. Plutôt que par le clavier.
Créer un compte ou se connecter, titre de niveau 1. La page contient 9 titres et 25 liens. Titre de niveau 1. Créer un compte ou se connecter, titre de niveau 3. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Allez à lien 1.
C'est un peu lassant, la langue. Hein? Et oui, les mêmes éléments de page vont être repris à chaque fois. Alors, en tant qu'utilisateur qui va écouter une page, moi-même ou n'importe quel autre utilisateur dans cette situation est comme vous, comme un utilisateur qui voit, il n'a pas qu'un seul mode de lecture, il n'a pas qu'un seul mode de compréhension. Toutes les pages ne sont pas abordées de manière linéaire quand vous les découvrez. Vous les parcourez, l'œil se promène, saisit leurs grandes zones, se fait une idée de leur structure, se construit une image de la page et du document, de l'interface. Dans un lecteur d'écran, le problème va être exactement le même, ou plutôt il va être encore plus sensible. Comment me faire une image mentale de ce document ? Lorsque je ne le vois absolument pas, lorsque je n'ai pas les repères visuels si importants dans ce média graphique, très graphique, que l'on croit uniquement graphique, comment faire pour me construire cette image mentale et survoler le document ? Pour le coup, un outil de lecteur d'écran me donne un certain nombre de moyens de le faire. Et l'important ici, c'est de se dire qu'un utilisateur, dans ce contexte très précis, va survoler votre page. Alors, par exemple, je vais tenter d'accéder au formulaire de manière plus directe. Je vais reprendre la lecture.
Titre de niveau 3, un article de Wikipédia, l'encyclopédie, votre nom d'utilisateur, édition LGD, votre mot de passe, édition case à cocher, non cocher, se souvenir de mon mot de passe.
Je suis passé directement au formulaire. Hein, je peux naviguer dans ma page, revenir au départ, ce que je vais faire ici.
Créer un compte ou se connecter Wikipédia. Votre nom d'utilisateur édition voilà. LGD.
Je suis dans le formulaire. Mon nom d'utilisateur, ici il est déjà saisi. Je vais passer au champ suivant.
Votre mot de passe édition.
Je saisis mon mot de passe.
Ah, votre code Z, titre de niveau 5 affichage.
Ah, il ne veut pas me saisir.
Rechercher Alt plus édition.
Quand j'avais dit que je me servais rarement du clavier, personnellement, donc je vais passer par la souris, on va tricher.
Identification, votre mot de passe édition. A, votre code-led. Récupérer l'entrée.
Et je vais passer à une nouvelle page.
Identification bouton. La page contient 8 titres et 32 liens. Les participants actifs au projet Wikimedia sont invités à lien voter. Pour les liens élections,
on va le laisser parler quand même parce que.
Ah! De la lien Wikimedia Foundation. Cette page sera automatiquement
activée. J'ai fait quelque chose.
Outil personnel, créer un compte ou se
je n'ai rien fait. Lien, accueil, rien du tout. Accueil.
Titre de niveau 5, navigation 8 de 4.
J'étais péniblement en train d'essayer de comprendre ce qu'il y avait sur cette nouvelle page, dans quel nouveau contexte de navigation j'étais arrivé. Et avant que ma synthèse n'arrive au bout de la lecture, avant qu'elle ne me permette de naviguer dans le document, qu'est-ce qui se passe? Je suis redirigé automatiquement. Ce qui est très pratique pour beaucoup d'utilisateurs. Ce qui est affreux dans un lecteur d'écran. Vous n'avez pas le temps de percevoir le document. Il est très périlleux de programmer quelque chose comme une redirection qui va se faire au bout de 10 secondes en considérant que 10 secondes, c'est un délai normal pour tous les utilisateurs. Pour l'utilisateur d'un lecteur d'écran, par exemple, mais pas seulement, ce délai pourrait être totalement insuffisant. On se retrouve sur une nouvelle page, on ne le sait pas forcément, on ne sait plus où on est perdu. On est désorienté. Cet exemple de JAWS, très rapidement esquissé, il est emblématique, souvent de l'accessibilité, je disais, parce qu'il illustre à la fois le potentiel de l'accessibilité. On peut ici rentrer dans Wikipédia, on peut se connecter sur son compte, on pourrait aller sur un article et le lire et le parcourir. On verrait d'ailleurs qu'ils sont très bien faits de ce point de vue-là. Il est aussi emblématique d'une situation à demi satisfaisante parce qu'il y a des choses qui restent encore à améliorer. Il y a des blocages importants pour certains utilisateurs dans Wikipédia. Mais là où il n'est plus du tout emblématique, à mon avis, c'est lorsque on le compare avec une autre situation de handicap.
Prenons... Alt-tab.
On va arrêter de choses. Parasité, sinon, voilà. Alors, revenons à notre diaporama. Voilà un autre exemple de contexte de handicap qui cette fois-ci n'a plus rien de visuel, n'a plus rien d'auditif, n'a plus rien de moteur, je ne suis aucune sorte de ces personnes handicapées-là. Je suis allé simplement lire un grand quotidien français. Je ne parle pas français. Je suis passé, je le parle un peu, disons, quand même. Celui-là n'est pas facile à lire. Mais j'aime avoir le renfort d'une application, une assistance, une aide pour accéder au contenu de ce document. Je ne suis pas allé la chercher très loin. Google Translate, qui me permet de naviguer dans un site en traduction automatique. Et je suis donc allé voir la une de ce grand quotidien qui est effectivement traduite avec les défauts qu'on connaît des traducteurs automatiques, mais qui est traduite en anglais. Je me suis supposé anglophone. Pas tout à fait traduite. Il y a des trous dans la traduction. Il y a des termes en français qui sont restés. Politique, société, économie, sport, multimédia, météo, rencontre. Pourquoi est-ce que tout ça n'a pas été traduit? Bah oui, évidemment. Voilà la même page, mais, allez, là j'ai aggravé un peu mon handicap. Non seulement je ne parle pas français, mais en plus je suis en bas débit. Alors pour accélérer ma connexion, je désactive l'affichage des images. Ah ben heureusement, ça me permet de m'apercevoir de la raison du problème. Tout ce qui n'était pas traduisible, c'était les images. Que voulez-vous, le web est un média graphique, on ne peut pas traduire, on ne peut pas le rendre accessible puisque c'est un média graphique. Ah. Autre exemple, pris totalement au hasard. Si, je vous promets. C'est joli, hein. Il faudrait que les gens qui l'ont fait nous payent un pot. Hein. Donc, si totalement fait au hasard, pris au hasard, j'ai bien une belle image là-haut, avec un logo, Open Web, la même que dans le monde, les mêmes images de titre que dans le monde tout à l'heure, j'ai désactivé mon image. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est traduite. Il existe des moyens de donner prise aux outils d'aide à l'accessibilité au contenu web. De manière à ce qu'ils puissent, ayant prise sur ces contenus, les rendre perceptibles aux utilisateurs dans différentes situations de handicap. Et personnellement, je trouve cet exemple-là, celui de la traduction, encore plus parlant que de choses. Alors, quittons les exemples. Contexte utilisateur. C'est ça, finalement, le handicap. On va oublier la déficience, je suis éventuellement aveugle. On va oublier le handicap. La cécité a des conséquences sur mes activités sociales. Et on va raisonner en termes de contexte utilisateur. C'est fou comme il y a des contextes utilisateurs variés et divers. Un contexte utilisateur, ça peut dépendre d'une connexion, ça peut dépendre d'un ordinateur. J'ai encore la nostalgie des vieux machins que j'avais dans mon école, moi. Ça peut dépendre d'une multitude de périphériques de sortie. Nous avons regardé une page web sur un écran. Quelqu'un parlait des problèmes d'accessibilité, justement, liés aux projections et aux media projection. Le périphérique de sortie, ça peut être l'écran d'un ordinateur, ça peut être un écran de n'importe quelle résolution, ça peut être l'écran d'un mobile, ça peut être la synthèse vocale de Jaws, que l'on a vu tout à l'heure, ça peut être une plage braille, tactile, ça peut être n'importe quoi. Mon traducteur, tout à l'heure, mon robot était lui-même une interface de sortie, d'une certaine manière. C'est bien sûr un périphérique d'entrée. Moi, je ne suis pas très habile avec le clavier d'un portable. D'autres seront incapables d'utiliser une souris. D'autres, en raison de difficultés motrices, vont utiliser un des périphériques d'entrée spécifiques. Des claviers virtuels, des capteurs de souffle réagissant à la respiration, des capteurs de mouvement oculaire. Alors là, on peut inventer n'importe quoi, il en existe de toutes sortes. Je peux être amené à utiliser un logiciel d'aide. Nous allons en voir deux exemples. Tout dépend enfin également de mon navigateur, puisqu'il paraît qu'il y a des navigateurs qui sont moins accessibles que d'autres. Bref, si je fais un site, dois-je gérer toute cette foule de conditions qui vont se cumuler? Est-ce que l'accessibilité, rendre mon site accessible, va consister à apporter à chaque utilisateur une réponse? Je vais optimiser mon site pour les utilisateurs handicapés visuels. Je vais l'optimiser pour les utilisateurs handicapés moteurs. Je vais l'optimiser pour ceci, pour cela, pour cela, pour cela. Je suis désolé, mais il vous restera toujours encore quelqu'un qui viendra vous dire « Moi, vous ne m'avez pas optimisé. » Vous ne m'avez pas anticipé. Je ne suis pas forcément anticipable. L'accessibilité ne peut pas être une somme de réponses à des handicaps. Et moi, personnellement, en tant que responsable de site, je ne veux pas avoir à gérer cette somme de réponses à des handicaps. Je ne veux pas avoir à gérer les utilisateurs. Et là, je me souviens que j'ai rencontré dans mon parcours, à un moment donné, les standards du web, j'ai rencontré les normes du W3C, la Web Accessibility Initiative et la définition qu'elle donne de l'accessibilité, la définition sacro-sainte de l'accessibilité, mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, infrastructure réseau, langue maternelle, culture, localisation géographique, aptitude physique ou mentale. Tous mes contextes utilisateurs sont réunis là. Est-ce que je peux encore les dépasser? Est-ce que je peux encore m'en abstraire avec ça, à votre avis? Ça m'a l'air mal parti. Si. Si je me souviens que j'ai quatre principes qui découlent de cela, quatre principes que j'emprunte le vocabulaire au projet de normes de directive d'accessibilité des contenus au VCAG 2. Mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, c'est faire un contenu perceptible par tous les utilisateurs ou par leur machine. C'est faire un contenu compréhensible parce que peut-être leurs machines vont pouvoir exploiter les informations qui s'y trouvent et les mettre à leur disposition. C'est l'exemple des images traduites tout à l'heure. Faire un contenu utilisable, que la machine puisse permettre à l'utilisateur d'interagir avec mon contenu. Faire un contenu robuste, parce que si j'investis dans tout ça, j'ai pas envie de recommencer tous les ans. Je veux que ce soit compatible, interopérable, avec notamment les navigateurs actuels ou futurs. Et là, je me dis peut-être que l'accessibilité, ça n'est pas cette somme de réponses à des handicaps, ça n'est pas une démarche spécifique dans la conception web. Si je me souviens de la définition qui a été donnée de l'accessibilité, c'est une dimension de tout le potentiel, c'est une dimension du plein potentiel du web. Par le biais de la normalisation, par le biais des standards. Alors les standards, on avait un incontournable tout à l'heure, c'était JAWS, on en a un deuxième, puisqu'on passe aux normes qui vont me permettre de m'abstraire de ces contextes utilisateurs. Le grand classique, VCAG 1.0, directive d'accessibilité des contenus web, avec ses trois niveaux, niveau A, niveau AA, niveau AAA. Tiens, l'accessibilité, c'est pas un bloc. L'accessibilité, c'est une démarche qui a une granularité assez fine pour me permettre de déterminer jusqu'où je peux, je dois investir. Vais-je être accessible au niveau A, AA, AAA? Ça, c'est ce qu'il y a de plus évident. Ces directives d'accessibilité des contenus, avec leur méthode d'application française avec AccessiWeb, européenne avec le Web Cluster. Mais ça n'a aucun sens si à mes contenus accessibles ne répondent pas des outils capables d'utiliser cette accessibilité. Là, je regrette de faire 60 kilos puisque l'exemple que j'ai pris, c'est Internet, c'est Firefox. Qui est un très bon exemple de navigateur qui ne respecte pas ici la norme fondatrice de l'accessibilité des agents utilisateurs. Cette norme dit « je peux désactiver la couleur sur une page web, l'information ne sera pas perdue » parce qu'il y a des utilisateurs qui n'auront pas accès à l'interface avec la couleur ou à qui la couleur va poser un problème. Alors j'ai pris un exemple remarquablement bien fait d'ailleurs de menu. C'est un menu qui se déroule en plusieurs blocs. C'est le menu qui a récemment été publié notamment par Aurélien Lévy. Ce menu s'ouvre, se déroule. Ces sous-menus se superposent au reste du contenu de la page. Avec des couleurs, tout va bien. Je vois bien mon menu qui ressort sur le reste de ma page. Si je fais partie des utilisateurs qui doivent désactiver la couleur dans Firefox, qu'est-ce qui se passe? tout se superpose. Je n'ai plus de couleur d'arrière-plan. Le texte de ma page, le texte de mes items de menu apparaissent les uns sur les autres et deviennent illisibles. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'a pas affaire à un menu qui est mal fait. Très, très, très loin de là. Non, on a affaire à un navigateur qui interprète mal une directive d'accessibilité. Pour lui, supprimer la couleur, ça veut dire tout rendre transparent. Alors que supprimer la couleur, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire rendre la priorité aux préférences de l'utilisateur, ce qui est différent. On ne va pas rentrer dans la technique, d'autant que je suis trop bavard. Alors, on va passer sur la dernière norme d'accessibilité. Caractéristiques, toujours des activités de la UI. ATAG, la norme d'accessibilité des outils de production de contenu. Moi, je fais des contenus accessibles. On a des navigateurs qui savent utiliser ce que je fais pour exploiter cette accessibilité. Encore faut-il que j'ai des outils de production de contenu qui répondent à deux conditions. Bien sûr, il faut qu'ils soient eux-mêmes accessibles, puisque ce sont des interfaces logicielles. Mais il faut aussi qu'ils favorisent l'accessibilité. Et là, on tombe sur cette éclosion, cette révolution des systèmes de gestion de contenu. J'en ai énuméré quelques-uns pris complètement arbitrairement, SPIP, MediaWiki, Typo3, Joomla, WordPress, EasyPublish, TextPattern, Plume, etc., etc., etc. Chacune de ces applications de production de contenu, normalement, doit être développée en tenant compte d'une norme d'accessibilité. Alors, très vite, on a trois normes d'accessibilité emblématiques, celle des contenus, celle des navigateurs, celle des outils de production de contenu. Et tout ça se passe dans un contexte normatif beaucoup plus général. De l'accessibilité, vous allez en retrouver dans XHTML, dans les feuilles de style CSS. Mais vous allez en retrouver tout aussi bien dans des normes beaucoup plus exotiques. Cette norme ISO 639, qu'est-ce que c'est ISO 639 déjà? Ce sont les codes pour les représentations des noms de langues. Quel est le rapport avec l'accessibilité? Il faut bien que, par exemple, un lecteur d'écran puisse déterminer la langue du contenu qu'il va lire, ou que sa synthèse vocale adopte le rendu correspondant à cette langue. Donc, elle concourt à l'accessibilité, cette norme. HTTP, Unicode, qui me dit quels sont les types de caractères, quelle est la table des caractères existants, représentables sur le web, fait partie de l'accessibilité. Alors, juste une seconde, XHTML, CSS, qu'on associe à l'accessibilité. J'entends souvent dire, c'est XHTML, CSS, ça y est, c'est accessible. J'ai gagné. Oui. Alors, j'espère que les gens de Wikipédia ne vont pas se vexer. J'aime bien l'exemple de Wikipédia. Et je vais en dire beaucoup de bien aussi si je me dépêche. Je vais juste en dire un tout petit peu de mal, là. Dans Wikipédia, vous avez un superbe lien de retour vers la page d'accueil. C'est le logo de Wikipédia qui est en haut à gauche de chaque écran et qui donc me sert de retour vers la page d'accueil. Eh bien, lorsque je consulte une page en désactivant la feuille de style, en désactivant les couleurs d'arrière-plan, parce que les couleurs me gênent, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus rien à cet endroit-là. J'ai toujours le lien. Sur ma capture d'écran, j'ai toujours le petit pointeur qui m'indique que j'ai un lien. J'ai toujours le tooltip qui apparaît, qui me dit titre, accueil et l'adresse. Mais je n'ai plus d'image, je n'ai plus rien. Je ne peux pas deviner qu'il y a un lien là. Et pourtant, c'est une page très bien faite en XHTML, CSS. Qu'est-ce qui se passe? On a mis un faux contenu CSS ici. On dit XHTML, CSS, on va séparer présentation et contenu. Oui, il ne faut pas se mettre à mettre du contenu dans les feuilles de style. Si vous supprimez les feuilles de style, vous obtenez ce genre de résultat. Il faut répartir les rôles entre les deux. Bon, c'était ma petite taquinerie sur Wikipédia. Alors Wikipédia, si je peux encore aller, on va se faire plaisir. Parce que c'est quelque chose de fantastique, Wikipédia. J'espère que Tristan vous en a parlé tout à l'heure. Je reviens un petit peu tard pour manquer ça. Mais Wikipédia, c'est fantastique. Je choisis cet exemple-là parce que, à mon avis, c'est le laboratoire par excellence de l'accessibilité des CMS. C'est le plus gros en volume. On a des dizaines de milliers de contributeurs. On a près de 10 millions d'éditions successives de pages sur la Wikipédia francophone, de modifications successives de pages depuis 2002, pour prendre cet exemple-là. Et on a toute la problématique stratégique de l'accessibilité des CMS. On a une accessibilité qu'on va pouvoir traiter au niveau de l'application elle-même, MediaWiki, qui doit être une application accessible, c'est-à-dire produire une interface en lui-même accessible et favoriser la création d'un contenu accessible. Là, si j'ai un problème, je vais pouvoir m'adresser aux développeurs de Wiki, de MediaWiki, par l'intermédiaire de Bugsy, de leur Bugzilla. MediaWiki, c'est aussi pas une certaine installation faite par des gens qui sont des intégrateurs XHTML CSS, qui vont utiliser des templates, des gabarits. S'il y a des Wikipédiens dans la salle, c'est le fameux monobook. Est-il accessible? Qu'est-ce que les intégrateurs doivent savoir en matière d'accessibilité? Comment les guider pour que leur contribution soit aussi une contribution à l'accessibilité? Wikipédia, c'est aussi dans un système d'édition d'articles, des outils génériques mis à la disposition des contributeurs. Ça, ça fait toute la force de l'édition d'articles. Il faut, lorsqu'un contributeur utilise un modèle qui va impacter les 30 000 articles sur les 30 000 communes en France, il faut que sa modification soit favorable à l'accessibilité. Et enfin, il y a le travail quotidien du rédacteur. Le rédacteur anonyme qui va corriger des fautes, rentrer des articles, écrire des articles, ajouter des phrases et qui a son influence sur le contenu. Alors que faire à partir de là? L'accessibilité de l'application, il faut s'adresser aux développeurs, mais il faut leur fournir des outils, des référentiels opérationnels pour leur travail. L'accessibilité au niveau des intégrateurs, eux aussi ont besoin d'être guidés. Parce que tout à l'heure, quand on a essayé de lire avec Jaws une page, il y a quelque chose qui nous a peut-être pas frappé, mais c'est que la lecture n'a pas du tout commencé par les menus qui étaient tout en haut de la page, où il y avait le menu article, discussion modifiée, tout simplement parce que ces menus sont en réalité très 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 loin dans le fond du code, pas du tout en début de code. Ce que Jaws nous a lu, c'est ce qu'il y a en tête de code. On a un template qui ne respecte pas une cohérence nécessaire entre l'ordre réel du contenu et l'ordre visuel. Il y a des guides là-dessus à formuler, à préciser pour ceux qui développent ces templates, qui produisent ces résultats. Les utilisateurs de Wikipédia maintenant, il y en a qui font des choses extraordinaires, ils font des modèles. Avec une petite syntaxe à coup d'accolade, je vais pouvoir générer un code, un contenu dans autant de pages que je veux dans les articles MediaWiki de Wikipédia. Ici, on a l'exemple d'un modèle qui sert à faire une citation. Alors une citation, qu'est-ce qu'on fait pour mettre une citation? On met un guillemet à gauche, un guillemet à droite. Là, c'est un des modèles qui existe. Le résultat, en fait, n'est pas une citation. Je n'aurai pas un contenu structuré de manière à produire une citation parce que ces guillemets que l'on voit qui encadrent apparemment la citation, ce sont des images. Ce qu'il me faut pour que ma machine puisse percevoir et me rendre perceptible la citation, c'est une structure de citation. Un gros mot HTML. La balise Q. Et puis, j'aime bien taper sur CSS. Et après, promis, je m'arrête. Les communes françaises, il y a 30 000 communes en France. Dans Wikipédia, il y a 30 000 articles. On a eu l'excellente idée, ça c'est vrai, de les localiser sur une carte. Vous avez une petite carte où apparaît un point rouge qui vous montre où est la commune en question. Superbe. Ce sont les rédacteurs de l'encyclopédie qui ont fait ça, pas les développeurs, pas les intégrateurs, non, les gens, les petites mains de tous les jours. Vous, si vous voulez, moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'outil qui était à leur disposition, l'outil le plus simple. Ils ont utilisé quelques styles CSS, quelques styles de présentation pour placer apparemment à l'écran, dans un certain contexte de rendu, celui d'un navigateur graphique, un petit point rouge au bon endroit de la carte de France. Ils ont fait ça très bien parce que c'est calculé directement à partir des coordonnées de longitude et de latitude de la commune qui sont indiquées dans un tableau présent dans l'article. C'est très bien fait. Seul défaut, si pour une raison ou pour une autre, mon navigateur, mon contexte utilisateur ignore les feuilles de style et la présentation, je perds totalement cette information. Mon petit point rouge n'est plus localisé. Donc, un rédacteur Wikipédia impacte l'accessibilité de manière considérable. Y compris quand il édite du contenu, comment va-t-il, dernier exemple, indiquer que W3C c'est une abréviation? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que l'application le lui permet? Lorsqu'il rentre un texte qui est en anglais, ici ce sont des liens en anglais dans un article, théoriquement l'application, on a reproduit un petit bout du code PHP, l'application lui permet de rentrer techniquement cette information. Ceci est un lien en langue anglaise. Mais est-ce que je vais demander aux 10 000 contributeurs de Wikipédia de taper ce genre d'information sous une forme plus ou moins barbare? Non, je ne peux pas. En conclusion, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut produire autant que possible, en aval de nos sites, des données accessibles et des métadonnées accessibles. Si j'ai un stock d'images, comment gérer ce stock d'images de manière à avoir déjà des contenus textuels qui leur sont associés et qui seront transmissibles dans le workflow? Comment produire et valider des contenus accessibles en cours de workflow? Mon rédacteur de Wikipédia, je dois le guider, je dois l'aider, je dois lui fournir des outils pour cela, sans entraver sa principale préoccupation qui est d'écrire un article, pas de faire de l'accessibilité technique. Pour cela, je pense qu'il faut des référentiels, il faut des guides ciblés, selon des publics précis. Les exemples que je donnais tout à l'heure étaient très grossiers. Et il faut enfin organiser une démarche de suivi de l'accessibilité, et ça je terminerai par un clin d'œil, je savais qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à Wikipédia qui seraient là. Wikipédia décerne des labels aux articles de qualité. Cet article a été reconnu article de qualité. Moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait quelques critères d'accessibilité quand on décerne ce label. Ce serait un levier possible, et un levier à mon avis extraordinaire. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop cavalier. Maintenant, les insultes sont à vous. Allez-y. Allez-y, allez-y. Daniel ?
Oui. Oui, j'ai donc une question avec. Je vais te la poser avec un chapeau d'ancien membre du HTML Working Group et membre actuel du CSS Working Group. Je suis très étonné par le fait que tu dises que la position des éléments dans l'ordre de traversée du document soit un problème pour les lecteurs vocaux de documents. À mon sens, c'est un problème du lecteur de documents. Le lecteur de documents devrait être interfacé avec le moteur de restitution pour détecter les positions visuelles des éléments et les lire dans l'ordre visuel. Nous sommes, nous, dans un contexte, je veux dire, Thierry Store pourra en parler, on est tous dans des formats. Notre format de lecture dans notre monde, en France ici, est une lecture de haut en bas et de gauche à droite. Il est anormal que le lecteur logiciel que tu utilises ne fasse pas de même. Donc, à mon sens, la position de l'élément dans l'ordre de traversée du document n'est pas un bon argument. Et les CSS en la matière, utiliser le, par exemple, le fixed positioning, comme c'était ta référence, pour mettre un élément qui se trouve en fin de document, en haut visuellement, ça, c'est irrelevant, comme disent les Anglais. Ça rentre pas en ligne de compte, à mon sens. Là, à mon avis, tu as vraiment mis en exergue un problème de Jaws. Pas du tout un problème.
Alors, un problème lié à comment gérer l'accessibilité en continu dans les implémentations, au fil des implémentations. Parce qu'actuellement, les lecteurs d'écran, par exemple, ne tiennent pas compte des CSS.
Alors,
il nous faut bien émettre, à partir de là, des recommandations qui vont être temporaires.
Absolument. Mais alors, on a trois guidelines.
Mm-hmm.
Mais on n'a pas de guidelines pour Jaws.
On n'a pas de guidelines spécifiques pour Jaws.
Absolument. On n'a pas de guidelines.
Elles sont dans les méthodes d'application.
D'assistance à l'accessibilité.
Tout à fait.
Et là, on a un manque flagrant. Et là, tu viens juste de montrer ce manque flagrant. Mais pas le manque des standards, à mon sens.
Ah non, ça n'est pas un manque des standards.
Si je peux me permettre de compléter, toujours Stéphane ici. Quand les dernières versions de Jaws prennent en charge les CSS, mais sont à peu près, je vais pas dire mauvaises, mais sont un petit peu comme Internet Explorer sur leur interprétation des CSS. Par exemple, dans Jaws, si je mets des instructions de print après des instructions de screen et que dans mon print, je demande que, par exemple, la navigation soit cachée, bah, lui, il oublie que c'est du print et il le prend en compte. Donc, par exemple, le site de Paris Web, pour les aveugles qui l'ont consulté les deux premiers mois, on avait oublié de faire le test. Et voilà, on avait un gros bug dans Jaws à partir de la version 6 qu'on n'avait pas dans la 5.5. Donc, de toute façon, malgré tout, moi, je crois quand même assez à l'argument de Laurent sur le fait que, effectivement, la CSS va replacer les éléments, mais on ne demande pas à Jaws d'être des yeux, on demande à Jaws ou l'IBM Page Reader de lire une page. Cette page, quand je l'ai écrite, j'ai pensé à une structure linéaire de laquelle je pourrais extraire un plan, pourquoi pas, pour faire un plan global de mon site, pourquoi pas pour extraire des glossaires ou des choses comme ça. Partant de là, quand mon plan est exposé linéairement d'une certaine manière, de quel droit la synthèse vocale va décider de repositionner, d'interpréter le repositionnement.
La réponse est aisée. Séparation entre la présentation et le contenu. On lit la présentation, on ne lit pas le contenu. C'est ça le problème. On essaye d'obtenir une restitution vocale équivalente à ce qui est sur l'écran pour les voyants.
Oui, alors cette fois, je vais en faire Sylvain Côte. Alors, par rapport à l'ordre de lecture, moi aussi je vais tiquer un petit peu, mais pas tout à fait dans votre sens. La page dans le texte, il y a un début de page, une fin de page, puis il y a un ordre. Mais personne lit la page dans cet ordre-là. Moi, quand j'arrive visuellement sur une page Wikipédia, je vais pas lire le menu en haut. Techniquement, la première chose qui m'apparaît à l'œil, c'est le titre de la page, le titre de l'article même.
Tout à fait.
Donc techniquement, on utilise même un petit peu cet écart de positionnement pour placer des menus de navigation un peu en fin de page, pour pas qu'ils parasitent la lecture, parce qu'on l'a vu dans les pages Wikipédia, encore un exemple, où comme toutes les informations de type un peu méta-information répétitive sur la page sont nuisibles à une lecture une fois qu'on est à la deuxième ou à la troisième page qu'on est en train de consulter, pour le menu de navigation, il en va de même. Une fois qu'on l'a vu une fois, on n'a pas envie de le revoir, on a envie de savoir où il est pour le retrouver. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas, de toute façon, la capacité de dire en méta-information. Bon, ça, c'est pas tout à fait des liens classiques, c'est un menu. Et de dire à un logiciel de lecture, je veux passer au menu. Parce que, techniquement, dans un site internet, on a rajouté, par habitude, des choses qu'on connaît tous. On sait qu'il y a des menus, on sait qu'il y a certaines des parties un peu incontournables. Dont on a tous appris à trouver une façon à peu près cohérente de leur rendre, et visuellement, on sait toujours où retrouver le menu. Effectivement, on ne sait pas où le mettre dans un flux de lecture de page.
On ne sait effectivement pas où le mettre, par contre, on peut donner un accès direct à ce menu. On peut donner à partir du début de la page un accès direct à ce menu. Et donc, à partir de là, il y a effectivement tout de même des stratégies qui permettent de s'affranchir de ce genre de contraintes. Enfin, si j'arrive sur ma page dans ma synthèse vocale et que deux liens clés me disent vous allez là, au menu. Vous suivez ce lien, vous allez au contenu. C'est bon. À partir de là, moi, je vais pouvoir assumer. Parce que je vais pouvoir naviguer dans la structure de la page. Je vais pouvoir sauter, ce que je n'ai pas montré, parce qu'on n'aurait pas eu le temps, mais sauter de tableau en tableau, sauter de liste en liste, de titre en titre. Après, c'est à moi, l'utilisateur du lecteur d'écran, de me faire mon image mentale de la page. Mais me donner cette facilité-là au départ, me dire, là, aller au contenu, là, aller au menu, ou au moins l'aller au menu. Je me douterais qu'à ce moment-là, tout de suite après, j'ai le contenu. Si on me donne ça, on me facilite considérablement les choses et cette exploration de la page.
En fait, ce que je voulais dire, c'est exactement ça. C'est que, indépendamment des de la capacité, oui, Denis Boudreau, pardon, pour je suis pas habitué à me présenter, pour pallier en fait au manque d'un outil quelconque de pouvoir restituer une logique d'interprétation ou de construction de page. D'une part, évidemment, il y a un travail de la part du développeur à structurer d'un point de vue HTML, mais aussi dans un point de vue logique, l'organisation des contenus. Une fois que ça c'est fait, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour justement pallier à cette incapacité-là. Donc, par exemple, sauter au menu ou sauter au contenu. Sans reprendre ce qu'on avait amorcé tout à l'heure à propos de l'aspect irrelevant de l'interprétation qu'on avait tout à l'heure. À mon sens, le fait d'avoir le menu avant ou après le contenu a aucune incidence. Aucune incidence parce que si moi j'adopte une certaine philosophie qui dit que sur une page d'accueil, par exemple, je présente d'abord le menu et ensuite le contenu pour que l'utilisateur puisse découvrir un peu la structure d'un site avant d'arriver au contenu, et que je décide par la suite, sur les pages subséquentes, d'avoir le contenu d'abord et ensuite la navigation parce que maintenant que c'est la navigation, ce qui va en premier, c'est le contenu. Ça pourrait tenir la route dans la mesure où j'organisais ma structure de cette façon-là. Puis ça serait une approche différente.
Avec le fait de changer de structure en cours de navigation d'une page à l'autre, ce qui est déroutant pour l'utilisateur. Moi, je me fais une idée d'un site sur sa première page sur laquelle j'arrive, quelle qu'elle soit, pas forcément l'accueil. D'autre part, il y a quand même une chose sur cette question des menus et du contenu à laquelle moi je peux pas résister, c'est que les menus n'ont rien à faire dans un document web. Rien du tout. Pour ça, il y avait par exemple les liens relatifs, les éléments link rel, qui étaient exploités autrefois nativement par Mozilla. Les exploite plus Firefox nativement. C'est pas bien. Je vais l'achever. Opera continue à le faire nativement. On va se réconcilier. Internet Explorer ne l'a jamais fait.
Candy Post. Donc, en fait, je voulais réagir là-dessus. C'est que les documents web actuellement sont dans un contexte historique. On a développé d'abord des documents avec que du contenu. Puis les gens ont commencé à développer des menus pour naviguer à travers les contenus. Et en effet, les menus de navigation n'ont rien à faire dans une page web. Alors, c'est une des seules possibilités qui est offerte pour l'instant pour le développement de sites web parce que, à cause des implémentations, c'est-à-dire que si les links avaient été implémentés de façon correcte, on aurait pu faire des menus qui auraient pu s'afficher, par exemple, dans la page. On aurait pu concevoir que ça reste pas seulement un menu de navigation dans un navigateur, mais que ce soit quelque chose qui revienne dans la page après. Mais, un menu de navigation, ça pose énormément de problèmes d'accessibilité parce qu'il y a un mélange de contextes. Et c'est vraiment une question de contexte. Et ça reprend une notion, c'est que là, c'est pas une déclaration de conflit, je suis pas tout à fait d'accord avec Daniel. C'est le fait de lire la page visuellement dans l'ordre visuel, c'est un des contextes de lecture d'une page, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire que dépendant des situations, il va y avoir plein de contextes différents. Par exemple, moi, en tant qu'utilisateur visuel, je vais pouvoir scanner des pages très rapidement parce que je veux accéder que, par exemple, je sais que sur ces pages-là, il y a des citations. Et je veux accéder aux citations. Donc, ma sélection en tant qu'humain, c'est une sélection plus sémantique. C'est-à-dire que, ici, je sais que c'est ces éléments-là qui m'intéressent. Il faudrait pouvoir que l'analyse sémantique d'une page... Sémantique, c'est un mot qui fait très savoir, mais c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. donc d'avoir accès aux éléments essentiels d'une page de façon à pouvoir choisir mon contexte de lecture d'une page. Qu'il soit visuel, comme Daniel l'a dit, qu'il soit linéaire, qu'il soit structurel, etc. etc.
Je vais répondre à ça parce que j'étais en train de réfléchir avec un axe vraiment standard en tête, standardisation plutôt. En fait, ce qui manque, c'est quelque chose qui existe en HTML2. HTML2, excusez-moi, c'est nerveux. C'est l'attribut rôle qui donne, on va dire, un sens sémantique, entre gros guillemets dégueulasse, à un élément donné. Et on devrait pouvoir avoir des noms prédéfinis, des rôles prédéfinis, qui seraient une navigation, titre, contenu, header, footer, enfin je sais pas, une quinzaine, trentaine de mots comme ça, bien prédéfinis, des éléments bien classiques d'un document, et que les navigateurs autorisent l'usager, sur chaque page, éventuellement, à définir son ordre de lecture préférentiel. Et là, ça permettrait. Alors, je regardais ton exemple tout à l'heure de Wikipédia et je me disais, le truc, c'est qu'on passe d'un document qui a un template à un autre document qui a un template identique. Et donc, on aimerait chanter un tout petit peu les éléments principaux de titre et de navigation pour s'attacher au contenu, sauf quand on veut renaviguer dans le top level du document. Ça permettrait de le faire.
Pour la petite histoire, c'est merveilleux dans MediaWiki. Quand on retire un petit peu bien de Wikipédia, on va pardonner d'un peu en aisant. C'est que mes préférences d'utilisateur, une fois que j'ai créé un compte là-bas, me permettent d'avoir un script, un JavaScript, qui va permettre de retravailler la structure du document, l'arbre du document, pour moi, et de le remodeler à ma convenance. C'est lourd. Ah, il faut se l'écrire. C'est très lourd. Ça s'échange. C'est très apprécié quand on le donne aux copains sur Wikipédia. Parce que c'est très pénible à écrire. Mais je peux remodeler côté client déjà par ce patch.
Bonjour, moi je m'appelle Jean-Rémy Duboc, donc je suis web designer. J'avais une question par rapport à un logiciel qui fait bondir, il me semble, pas mal de professionnels de l'accessibilité qui s'appelle Flash. La question, tout simplement, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui des vraies solutions pour qu'on ait un site qui soit à la fois avec l'attraction visuelle que Flash peut apporter et qui puisse convenir aux personnes qui utiliseraient ce site dans un autre contexte C'est bien ce qui me semblait.
Pas de gros mots.
Juste une petite remarque, on en parlera sans doute demain dans le forum technique proprement dit, mais il y a des choses à faire avec Flash, il y a des pages d'accueil qui sont entièrement en Flash, si on sait quoi désactiver et si on sait que des gens manipulent uniquement le clavier, Flash sait utiliser une librairie Windows qui s'appelle MSRA, qui lui fait redescendre le fait que, attention, j'utilise une technique assistive, merci de prendre en compte. À ce moment-là, Flash permet de désactiver certains contrôles et permet de faire certaines choses. Pour les flashs complexes, je vous répondrai non d'office. Une dernière question.
Ça reste limité. Ça reste très limité.
On ne pourra pas s'affranchir d'une interface alternative.
Par contre, on fait, dommage qu'on ne se serve pas plus souvent d'objets flash posés, et pas. Non pas un interface flash, on va arrêter de dire le gros mot, mais un interface HTML avec des objets flash.
Une petite dernière question sur la route.
Donc bonjour, je m'appelle Jean-Marc Fontaine, je suis de la société Canopée et voilà. Je voudrais revenir sur l'exemple du monde, parce qu'il y a quelque chose, soit j'ai mal compris, soit l'exemple était un peu biaisé, parce qu'en fait vous montriez donc les titres qui effectivement étaient traduits parce que c'était des images. Ensuite, vous désactivez les images pour montrer que c'en était. Et ensuite, vous montriez qu'avec l'attribut alt, c'est possible de traduire. Admettons qu'on ne désactive pas les images, mais qu'on a quand même rempli l'attribut alt. Est-ce que ça va vraiment être traduit?
Admettons, pardon, qu'on ne désactive pas les images.
On ne désactive pas les images, donc on arrive sur la page normalement. Mais par contre, le site est relativement accessible puisque les balises alt ont été remplies. Oui. Ça ne changera rien finalement. On aura toujours des images et ce ne sera pas traduit, je suppose. Ou est-ce que ce sera vraiment traduit? Il va enlever les images pour mettre la traduction.
Si je désactive les images, j'ai ma traduction.
Si on ne désactive pas, on arrive dans un fonctionnement classique, on arrive sur le site, on demande à traduire. Déjà
s'il vous plaît, on a Alice au premier rang qui fait ce que normalement les professionnels font pendant 20 minutes et se relèvent 20 minutes plus tard, et elle le fait sans discontinuer depuis 2 heures. Donc, si possible, parlons chacun notre tour et avec un micro parce qu'on ne va pas s'en sortir. Merci. Alors, allez-y maintenant, je vous ai fait peur. Denis ?
Je tenais vraiment à dire un truc sur Flash.
Et puis ça va être la dernière remarque.
Mais c'est pas méchant. Puis de plus, je suis pas forcément contre Flash, peut-être à la surprise de quelques-uns. Dans les faits, je vois un peu Flash comme je pourrais voir n'importe quel autre format. Je ferai jamais une page en QuickTime, une page web en QuickTime. Je ferai pas plus une page en Flash parce que Flash n'est pas destiné au départ à faire une page web. Flash est destiné à faire un objet, un bout de page, un truc quelconque dans une page qui va venir justement bonifier soit une image corporative, soit un élément de navigation qui ne serait pas essentiel à l'utilisation d'une navigation, des choses comme ça. Ce qui fait que dans un contexte où on réfléchit à la nature du contenu qu'on met en ligne, si on utilise Flash et que on prend la peine de le faire d'une manière qui répond à un certain nombre d'exigences au niveau de l'accessibilité, ça peut être tout à fait accessible, utilisable et disponible en termes d'information. Donc, c'est surtout la manière dont on fait les choses qui pose problème avec Flash, ou la manière dont on perçoit l'utilisation qu'on doit faire de Flash qui est le problème, et non pas le format. Tant et si longtemps que SVG et Smile sont pas mieux répartis ou utilisables. Ou Tristan, en fait, ou n'importe qui chez Microsoft. En fait.
Voilà, Denis garde des choses à dire. Voilà, merci à tous pour vos questions. On est à court de temps. On va passer à la prestation suivante. Merci beaucoup, Laurent. Alors, là, on va faire une très courte pause juste.